Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien évidemment sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Alors aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Alors aujourd'hui, ce soir, donc, l'émission est consacrée à la présentation d'une des dernières notes de la Fondation Copernic, note intitulée « Un président ne devrait pas faire ça ». Et comme l'indique le titre, il s'agit d'un ouvrage qui dresse le bilan du quinquennat de François Hollande et fait le point sur les réformes ou les contre-réformes engagées au cours de ces cinq dernières années, mais également des promesses non tenues par le candidat Hollande. Et nous allons voir ça avec deux invités aujourd'hui. Willy Pelletier, qui est sociologue et par ailleurs coordinateur de la Fondation Copernic et qui cumule, puisqu'il est aussi coordinateur de l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. Willy est au téléphone, je crois qu'il est avec nous maintenant. Willy, tu es là ?
Oui, 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 absolument.
Eh bien, bonjour Willy. Et avec Willy, bien Norbert Holblatt, qui est économiste et rédacteur d'un des articles de cette note, et en particulier l'article qui introduit la note, sauf erreur de ma part, sur la politique économique du quinquennat Hollande. Alors, comme vous savez, vous pouvez réécouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin. Mais surtout, vous pouvez la podcaster, comme l'ensemble des émissions qui sont animées par la Fondation Copernic, soit sur le site de la Fondation elle-même, www.fondation-copernic.org, ou bien sur le site de Mode d'emploi. Voilà, donc alors, bonjour Willy, bonjour Norbert. Alors, pour commenter le bilan du quinquennat Hollande, le mieux, c'est peut-être de commencer par le commencement et de rappeler la fameuse phrase du candidat Hollande qui avait tant frappé les esprits lorsqu'il avait déclaré lors d'un meeting de campagne que « mon ennemi, c'est la finance ». Évidemment, à l'époque, des espoirs avaient été suscités par cette, en tous les cas pour certains, par cette phrase. Aujourd'hui, évidemment, le bilan est tout autre. Effectivement, force est de constater que, et ce sera le sens de cette émission, que pour les promesses, eh bien, bon nombre d'entre elles n'ont pas été tenues. On peut en effet difficilement imaginer un bilan plus désastreux pour une présidence se réclamant de la gauche. L'implosion actuelle du PS, d'ailleurs, en est certainement une des preuves. Alors certes, tout n'est peut-être pas rejeté dans les mesures qui ont pu être prises. En particulier, on peut penser à la loi sur le mariage pour tous, que les candidats de droite aujourd'hui à la présidentielle veulent évidemment dénoncer et veulent remettre en cause. Mais pour une loi comme celle-ci, combien de renoncements et de reniements? Donc pour faire le point sur ces cinq années, je vous propose qu'on discute en trois temps. Peut-être d'abord donner la parole à Willy Pelletier, puisqu'il a coordonné la note et que ça nous permet un petit peu déjà d'avoir une idée sur pourquoi une telle note et en gros quel est un petit peu le sens de cette note et les différents points qui sont abordés dans cet ouvrage. En un deuxième temps, je me retournerai plutôt vers Norbert qui comme je le disais tout à l'heure a plutôt introduit la question économique de cet ouvrage pour voir avec lui finalement quelles ont été les mesures qui ont été prises, les contre-réformes qui ont été apportées. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut penser de ce quinquennat du point de vue économique? Et dans un troisième temps, si vous en êtes d'accord, à ce moment-là, on pourrait peut-être redonner la parole à Willy, même si évidemment Willy intervient quand il veut, sur le New Public Management, parce que l'idée, c'est peut-être de se poser la question, mais finalement, comment se fait-il que le Parti Socialiste et le gouvernement Hollande du président Hollande ait pu finalement tant s'écarter de ce qui avait été initialement annoncé lors de la campagne. Et peut-être qu'une des explications, c'est évidemment pas la seule, mais une explication peut tenir dans cette adhésion finalement du Parti Socialiste à ce qu'on a appelé le New Public Management, et Willy pourra intervenir là-dessus. Enfin, peut-être quelques mots sur et finalement tout ça, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? C'est une question qu'on pose souvent en fin d'émission, puisque le rôle de la Fondation, c'est bien évidemment de constater, mais c'est également aussi d'essayer de faire des propositions. Voilà un petit peu pour cette heure de débat ensemble. Willy, est-ce que tu veux bien donc démarrer sur cet aspect de la note, un petit peu pourquoi cette note et qu'est-ce qu'on peut apprendre dans cette note, qu'est-ce qu'on peut lire dans cette note?
Oui, c'est un tour de...
un tour de table.
Un tour d'horizon, non, mais un tour d'horizon un peu général que l'on trouve dans la note sur l'ensemble de la politique Hollande. La note s'appelle « Un président ne devrait pas faire ça » parce qu'en réalité, ce président a beaucoup fait. Et sauf, tu l'indiquais, le mariage pour tous, qui restera une loi importante probablement, est-on capable de citer une seule loi de gauche ? La réalité, c'est qu'on a beau... la réponse est dans la question. On a beau se creuser la tête tout de même longtemps, on ne voit pas une seule loi qui n'eût pas été portée par la droite. Dans à peu près tous les domaines, il s'agit de la poursuite de la politique de Nicolas Sarkozy. Donc, encore fallait-il le détailler. Et lorsqu'il s'agit de lois qui peuvent sembler des lois plus sociales, on s'aperçoit très vite, en analysant les choses un tout petit peu sérieusement, que ces lois ne le sont pas. Je pense par exemple à la loi dite Allure, la loi logement sur l'encadrement des loyers, portée par Cécile Duflot et qui a été revendiquée comme la loi de gauche, à tel point d'ailleurs que, sitôt arrivé au gouvernement, Manuel Valls l'a annulée, de fait. Mais cette loi, qui est une loi sur l'encadrement des loyers, en réalité, était un tel parcours du combattant qu'il y a eu une poignée simplement de redressement de loyers dans les zones considérées. En l'espèce, ça a été réduit à Paris.
Les zones dites en tension.
Voilà, les zones dites de tension. Bon, et donc, en fait, ce gouvernement qui vient de s'écouler a eu pour slogan « Mon ami, c'est la finance ».« Mon ami, c'est la finance ». Et on peut d'ailleurs très facilement le montrer, hein, puisque le premier secrétaire général adjoint de l'Élysée, on le connaît, c'est Emmanuel Macron qui vient de chez Rothschild. Et juste après, arrive comme conseillère économie et finance à l'Élysée, une fois que Macron est promu au ministère de l'économie, Laurence Beaune. Laurence Beaune, parce qu'il faut bien à un moment donné... Et c'est ce que nous essayons aussi de faire dans le livre, être précis et citer qui fait quoi. Bon. Est-ce qu'on comprend mieux ce qui est fait quand on comprend qui fait quoi ? Et Laurence Beaune, par exemple, c'est la London School of Economics, puis l'OCDE, puis la banque Merrill Lynch, dont elle devient, avant qu'elle devienne conseillère économie et finance. Et puis ensuite, quittant l'Élysée, elle rejoint AXA, comme chef économiste en 2016. On peut démultiplier les exemples, j'en citerai peut-être d'autres tout à l'heure. Mais en tout domaine, en réalité, que ce soit d'un point de vue précisément du nucléaire, d'un point de vue précisément de l'emploi, d'un point de vue des avancées qu'on aurait pu attendre concernant les droits des femmes, concernant l'assurance chômage, la pauvreté, c'est un désastre absolu. Voilà. Alors, on pourrait dire, maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire ? D'une certaine façon, il y a un tour de passe-passe qui est en train de s'opérer et qui consiste à, puisque Hollande ne se représente pas, à ne plus parler de son bilan. Sauf que son bilan, il aura des conséquences, il a déjà des conséquences. Et parmi les conséquences qu'il a, évidemment, il y a bien sûr le renforcement de la politique sécuritaire, en même temps que beaucoup d'éléments d'intervention militaire qui sont hautement contestables eu égard à leurs résultats. Donc ce livre « Un président ne devrait pas faire ça » est un livre qui conserve une très grande actualité. Tout simplement parce que la personne qui, on verra bien, mais qui risque de gagner l'élection présidentielle propose de faire du Hollande sans Hollande en pire. Propose de continuer sa politique, mais avec les éléments les plus droitiers. Bon, donc Hollande a gagné, paradoxalement, ou Hollande va gagner cette élection présidentielle sans lui. Pour comprendre ce que fut le hollandisme, Je pense qu'il est bon de revenir de façon détaillée, chapitre après chapitre, sur l'ensemble des régressions qui furent extrêmement nombreuses, y compris dans les services publics, par exemple, pour pas citer tout l'ouvrage, mais où la MAP, la modernisation de l'action publique, n'a en réalité fait que continuer cette modernisation libérale que constituait la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, qui était développée sous Sarkozy. Bon, voilà.
Dans le livre, vous avez un petit peu résumé les choses, classé les chapitres en trois rubriques. Hein, où il y a les mesures qui finalement sont pires que celles qu'aurait pu prendre la droite, et on reviendra certainement là-dessus avec Norbert, en particulier dans le cadre de la politique économique, la mise en place du CICE, la hausse des taux de TVA, enfin de nombreuses mesures qui ont été prises en particulier en matière économique, finalement auraient pu être prises par la droite, voire n'auraient peut-être même pas été prises par la droite. On pense aussi, il y a un papier sur la criminalisation du mouvement social. On voit qu'effectivement là, il y a eu des choses qui se sont faites de manière tout à fait étonnante pour un gouvernement de gauche. Refus de l'amnistie, des syndicalistes ou des lanceurs d'alerte. Enfin, des choses qui vraiment sont tout à fait fortes. Alors, néanmoins, dans cet ouvrage, on voit quelques indications classées sous la rubrique. On a le gouvernement Hollande, enfin le quinquennat Hollande a fait un peu mieux que n'aurait pu faire une droite. Et là, vous citez l'abrogation de la TVA sociale, la loi sur le mariage, on l'a dit, hein, l'introduction de la tarification carbone dans la fiscalité, et puis évidemment en matière écologique, l'accord qui a été obtenu à Paris sur la réduction des gaz à effet de serre. Et troisième chapitre que vous ouvrez dans ce domaine, finalement, des politiques qui ont été finalement, qui n'ont jamais été que la poursuite des politiques antérieures qui ont été menées. J'ai noté, évidemment, tu en as parlé, Willy, hein, les politiques en matière de chômage, de lutte contre la pauvreté, le logement que tu as cité, effectivement, où finalement, aujourd'hui, on est toujours dans la même situation où on continue à expulser les locataires au moment en période hivernale, ou bien au hasard la refus de régularisation des sans-papiers. Donc on a bien, selon la Fondation Copernic, ces trois mouvements, quoi.
Oui, mais enfin ils sont extrêmement effectivement disproportionnés, c'est-à-dire que pour les quelques minuscules avancées, combien de renoncements, quoi. À un moment donné, tous les gens qui ont porté Hollande au pouvoir n'ont pas voté pour ça. Voilà. Ils n'ont pas voté pour l'austérité au carré. Ils n'ont pas voté, tu l'indiquais à très juste titre, pour des coups de trique contre les syndicalistes et le mouvement social. Ils n'ont pas voté pour la loi El Khomri et l'abandon et la casse, l'abandon de la hiérarchie des normes et la casse du droit du travail. Ils n'ont voté à peu près pour rien de ce qui a été effectué par Hollande. Par contre, je suis bien certain qu'ils ont voté pour davantage d'écologie, et notamment sur Notre-Dame-des-Landes ou sur la politique nucléaire, énergétique. Ils n'ont pas voté pour l'assassinat de Rémi Fraisse. Ils n'ont pas, etc. Donc, on est vraiment là, d'un point de vue institutionnel, dans pire que de la trahison, je dirais, quelque chose qui n'a à ce point jamais été vu, c'est-à-dire un président qui dégoûte même de croire encore en la parole politique.
Norbert, peut-être sans rentrer directement encore dans la politique économique, mais sur ce plan un peu général du quinquennat Hollande, est-ce que tu...
Sur ce plan général, il n'y a pas eu pire du point de vue de la gauche française depuis le gouvernement Guy Mollet en 1956. Bon, qui est arrivé aussi pour faire une sorte de paix en Algérie, qui a été élu pour ça, aussi devait prendre un certain nombre de mesures sociales, et puis qui s'est embourbé dans la guerre d'Algérie, qui est devenu l'élément central de sa politique, avec la torture, etc. Et ça a conduit bon, à l'effondrement progressif de la SFIO, avec Hollande, le processus d'effondrement du PS était même plus rapide que la SFIO, puisque la SFIO, il avait fallu mai 68 pour l'achever et arriver à cette situation des élections présidentielles de 69 où Gaston Defferre avait fait 5% des voix. Mais il y a des analogies, il n'y a pas eu pire à gauche depuis Guy Mollet. Alors, l'autre point sur lequel,
tu rappelles un petit peu finalement ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'implosion du Parti socialiste, eh bien, elle est très largement due à la politique qui est menée, qui a été menée pendant 5 ans.
Elle est due. Ils ont fait au sein du, finalement, Hollande s'est rallié à une politique qui explicitement n'avait été soutenu que par quelqu'un qui a fait 5,65% des voix au primaire du PS, c'est-à-dire Manuel Valls. Bon, Hollande a fait la politique de Valls. Alors ensuite, c'est vrai que depuis 83 à peu près, le PS avait progressivement basculé vers le social-libéralisme. Mais il y avait encore quelques aspects de gauche dans sa politique, et puis il y avait également une dichotomie entre la politique économique et la politique sociale et le côté sociétal. Tandis qu'avec Hollande, mis à part le mariage pour tous, mais avec l'hypothèse d'enlever la nationalité française, enfin du retrait de nationalité, là il y a eu une rupture, y compris sur le terrain sociétal. Il y a eu un basculement du PS, à la fois sur le plan de la politique économique, sur le plan de la politique sociale et de ce qui faisait encore le lien d'un certain nombre de gens au PS sur le plan sociétal vers une politique de droite avec des côtés effectivement poussés par Valls à l'extrême, Chauvin, Cocardier, etc. Donc pour moi il y a un lien effectivement entre l'évolution l'implosion du PS comme tu le disais et la politique de Hollande, bon qui alors ça ensuite, bon, les modalités exactes dépendent des circonstances, des hommes, etc.
Bien, bah écoutez, après cette petite présentation générale de la note, je vous propose une première pause musicale. On en aura une seconde tout à l'heure. Et on a pensé que c'était pas inintéressant d'écouter Chuck Berry vu les événements ces derniers temps. Et là, on vous propose un enregistrement public des années 70 qui s'appelle Carole. Chuck Berry, pas facile de passer de Chuck Berry au bilan économique de François Hollande, c'est une prouesse.
Absolument, oui.
Une prouesse qu'on va demander néanmoins et qu'on va tenter de faire. Norbert, bon, effectivement, dans cette seconde partie, l'idée c'est de revoir un petit peu plus précisément les mesures qui ont été prises par le gouvernement mené par François Hollande, enfin par Manuel Valls en particulier. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette politique et quel serait un petit peu le bilan économique? Si on veut dire bilan, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, est-ce que ça va mieux aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans? Première question, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Prenons les chiffres du chômage qui sont parus aujourd'hui. Voilà, il y a 3500 chômeurs de moins en catégorie A de janvier à février. Catégorie A, je rappelle, oui. C'est ceux qui ont strictement aucun boulot. Par contre, il y en a 31 000 de plus en catégorie B et C, c'est-à-dire ceux qui ont des emplois, ce qu'on appelle dans le jargon de Pôle emploi, des activités réduites.
On appellera ça des petits boulots.
Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire le chômage total baisse marginalement, parce qu'il en reste 3 500 000. Hein. Je veux dire, je vous laisse faire le calcul vous-même, à 3 100 par mois, combien il faudra d'années pour revenir à des niveaux acceptables quand on en a 3 500 000. Et par contre, la précarité ne cesse d'augmenter. Bon, donc, quel est le bilan par rapport à ça? Si on est au PS, ou disons même macroniens et macroniens, on dit, ben, c'est très bien, le chômage baisse. Si on observe la réalité, on dit la précarité augmente. Et ça renvoie aux objectifs d'une politique. En fait, dans une politique économique, il y a, grosso modo, toujours des objectifs explicites et des objectifs implicites. L'objectif explicite, c'est quelque chose qui est vendable d'un point de vue politique. Donc, en général, dans le contexte actuel, c'est la baisse du chômage. Donc, c'est tout le discours de Hollande...
Qui, d'ailleurs, s'était prononcé en expliquant qu'il ne se représenterait pas si le chômage...
Voilà, la courbe du chômage, etc. L'objectif explicite, c'est la baisse du chômage. Mais l'objectif implicite, bon, c'est d'accentuer le remodelage de ce qu'on a pu appeler le compromis social en augmentant la précarité, en individualisant les droits des salariés, en continuant à limiter un certain nombre de services publics, etc. Donc il y a un décalage entre l'explicite et l'implicite, et qui est d'autant plus mal supporté par la population, surtout par les acteurs de Hollande, que c'est difficilement vendable, quoi, voilà, de dire on fait quelque chose et puis de mettre en exergue des petites broutilles, cette baisse de 3100 ou 500 du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, alors que tout le reste est en train de s'enfoncer. Et de ce point de vue-là, c'est pas un échec. Je veux dire, la politique de Hollande n'est pas, sur ce plan du social, n'est pas un échec. Il fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire les grands intérêts économiques, la Commission européenne, etc. C'est-à-dire, il suit la route qui a été engagée en Allemagne par un autre gouvernement dit de gauche, le gouvernement du chancelier Schröder, avec les mesures Hartz au début des années 2000.
C'est vrai que tu fais écho aux questions qui sont souvent, enfin aux réponses qui sont souvent données par le PAS socialiste sur le thème. C'est difficile, mais surtout on est dans un cadre européen qui est contraignant et auquel nous devons répondre. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut être compréhensible ou et en particulier acceptable?
Le problème du cadre européen, c'est que il existe, mais le problème, c'est que aucun des gouvernements français depuis très longtemps n'a tapé du poing sur la table en disant si telle mesure ne passe pas ou si telle mesure à contrario passe, je bloque le système. Bon, il y a eu deux précédents dans l'histoire de la communauté européenne puis de l'Union européenne. Ça a été De Gaulle dans le cours des années 60 qui a dit si j'ai pas la politique agricole commune, je bloque les institutions européennes. Ça a été la politique de la chaise vide. Et puis ça a été Margaret Thatcher à une certaine époque pour obtenir des compensations, en fait, de réduire la facture britannique au budget de l'Union européenne. Et aucun des gouvernements français ne l'a fait. Alors que, dans le cadre de l'Union européenne, le rapport de force de la France est nettement supérieur à celui d'un pays comme la Grèce. On n'a jamais tenté le coup, et à chaque fois, bon, en 1997, Lionel Jospin, qui avait annoncé qu'il n'accepterait pas le traité en discussion à l'époque, a fini par l'accepter. Et quant à Hollande, qui avait annoncé qu'il refusait le pacte budgétaire européen, le TSCG, il a accepté doté d'un volet de croissance totalement bidon. Donc on n'a jamais la gauche française n'a jamais essayé de peser sur l'orientation de la construction européenne en tapant du poing sur la table, comme ont su le faire à une certaine époque certains même gouvernements de droite comme De Gaulle ou Margaret Thatcher.
Dans ton article, tu fais néanmoins une analyse donc un peu séquentielle de la politique économique de François Hollande. Tu montres que dans un tout premier temps, qui a été extrêmement court finalement, qui a duré
trois mois,
c'est ça, on a eu quelques réformes qui pouvaient paraître positives au départ, et que très très vite, on est repassé à une politique qu'on qualifie de néolibérale. Est-ce que tu peux un petit peu nous retracer cette historique?
Dans un premier temps, il y a eu deux types de mesures qui ont été prises. Il y a eu des qui concernaient essentiellement les retraites. Bon, les mesures pour les carrières longues, qui ont également concerné les femmes, mais qui étaient des mesures extrêmement partielles, c'est-à-dire que il n'y avait pas de remise en cause des contre-réformes des retraites faites antérieurement, il y avait simplement des mesures pour en amortir les dégâts pour les salariés ayant commencé à travailler plutôt très tôt. Et la deuxième chose, ça a été en matière fiscale, effectivement, la suppression de la TVA sociale de Sarkozy et la mise en place de réformes fiscales, enfin de réformes marginales de la fiscalité qui touchaient avant tout les entreprises et les ménages à revenus élevés.
Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer, parce qu'on a eu un peu finalement... Si on se rappelle, si on reprend un petit peu l'historique antérieur, on a eu un peu finalement le même schéma lorsque Jospin était lui-même à ce moment était Premier ministre, où on a eu une première phase qui était plus longue là pour le coup de mesures, disons qu'on en pourrait qualifier de gauche en tous les cas de mesures progressistes, et ensuite de nouveau la rigueur. Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce schéma? Est-ce que c'est inhérent au Parti socialiste? Est-ce que c'est la crise qui fait que en tous les cas, c'est le discours qu'on a du côté du Parti socialiste. On a essayé, mais la crise était là et finalement, on n'a pas pu faire autrement que de reprendre les politiques de rigueur qui sont imposées par la Commission européenne.
C'est pas pour faire l'éloge de Lionel Jospin, mais chez Jospin, ça a été plus entremêlé parce que on pourrait faire un bilan des 35 heures, mais la mise en place par étape des 35 heures, bon, c'est faite contre l'avis du patronat globalement, et ça s'est étalé sur deux lois, la loi Aubry 1, la loi Aubry 2. Bon, disons de ce point de vue-là, il en est resté quelque chose. Bon, ensuite on peut contester les effets, etc. Tandis que, bon, comme le disait Willy tout à l'heure, qu'est-ce qui reste de l'époque Jospin, de l'époque Hollande, à part le mariage pour tous? Et j'ajouterais, même si c'est pas dans le domaine de la politique économique, toutes les lois sécuritaires qui ont été adoptées et qui constituent des instruments potentiellement extrêmement dangereux. Donc il ne reste rien du gouvernement Jospin en tant que Hollande, pardon. Oui, tu as introduit Jospin du coup. En plus, Jospin, c'était il y a quelques 20 ans.
Mais on voit quand même, hein, on voit quand même la même démarche, quoi.
Je pense que Jospin a tenu à gauche un peu plus longtemps, enfin à gauche avec toutes les limites, plus longtemps que Hollande, qui dès la rentrée 2012 a infléchi et passé à autre chose, c'est-à-dire qu'il avait fait quelques mesures de gauche, etc. Et puis il a considéré qu'il en était quitte et il est passé au thème de la compétitivité qui a débouché progressivement après divers rapports dont l'un a donné lieu à une critique de la Fondation Copernic et justement et ensuite il est passé au CICE, il est passé
on y reviendra. Willy, à ce stade quelques mots pour tout de ta part?
Non, je crois que Norbert résume totalement la situation. C'est de pur Hollande a fait la politique de l'ordre. Parce que d'ailleurs, dès l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, Hollande signe sous pseudo un premier livre qui est une dénonciation de droite de la politique entre guillemets sociale, mais au tout début c'était social, que François Mitterrand développe. Ensuite, la carrière d'Hollande se caractérise par le fait qu'il monte un premier groupe qui s'appelle les Transcourants au Parti Socialiste et qui tente par tout moyen de promouvoir la candidature de Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, et la Commission européenne qui ne fait que des lois libérales, qui continue, mais qui à l'époque ne fait que des lois libérales, comme candidat du Parti Socialiste. Donc, j'allais dire, Hollande vient de loin. Il vient de toute l'histoire politique d'Hollande. Donc il a fait la politique d'Hollande, mais il n'a pas fait la politique pour laquelle il a été élu. Dans son rapport au patronat, c'est tout simple, on a eu le sentiment véritablement que Hollande chantait à Gattaz du Joe Dassin. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Voilà. Et que c'était chèque en blanc sur chèque en blanc. On se souvient, mais il faudrait graver partout, du pins de Gattaz sortant...
Et le million d'emplois.
Avec un pins, un million d'emplois, on les attend.
On les attend toujours.
Pourtant, il a obtenu tout et absolument tout. Et comme il n'y a eu pour faire contrepoids, y compris d'un point de vue juridique, aucun dispositif, eh bien, ça a été une gabegie patronale à tout niveau. Je pense que même Dominique Strauss-Kahn aurait fait moins pire. Parce que Dominique Strauss-Kahn, l'ami des puissants et des patrons, aurait dit aux puissants, ou tout au moins on peut le supposer, aurait dit aux puissants et aux patrons, là tu vas trop loin. Mais tout a la volonté de se faire bien voir des milieux d'affaires, des grands de ce monde auquel il a tellement rêvé d'appartenir sans jamais y appartenir, Hollande, mais comme beaucoup des membres des ministères de François Hollande, qui sont essentiellement des professionnels de la politique depuis toujours.
On reviendra sur cette question, voilà, qu'effectivement,
qui rêvait tout
ce passage du public au privé, cette fascination pour l'argent.
De parvenir, qu'une fois qu'ils ont été au pouvoir, ils ont fait une politique de parvenus. Voilà. Et tout ceci est désastreux. Ça va au-delà, bien sûr, du bilan économique de Hollande. Ça a cassé des vies. Le chômage comme expérience récurrente, mais notamment comme expérience d'entrée dans la vie active pour les plus jeunes, qui est devenue quand même maintenant extrêmement répétitive. Oui, ça casse des vies, parce que par exemple, beaucoup d'étudiants doivent travailler, donc ne réussissent pas comme ils devraient, comme on peut s'en douter des étudiants du milieu populaire. Beaucoup de jeunes gens qui travaillent et qui s'installent avec leurs compagnes, avec leurs compagnons, avec etc., doivent décohabiter, retourner chez leurs parents. Et puis, avec ce régime des stages, ce régime des CDD, ce bizutage social que subit la jeunesse, au total, on apprend aux jeunes gens une docilité dans l'entreprise, qui est en même temps que la concurrence de tous contre tous dans l'entreprise, ce qui constitue pour l'avenir des dangers extrêmement graves. Et de la part d'un président de gauche, ou théoriquement, employons des mots qui n'ont plus beaucoup d'usage, mais qui sont pourtant tellement forts, et devrait faire la politique de sa classe, moins de ses électeurs. Eh bien, faire la politique exactement inverse est un drame, juste un drame.
Et Norbert, il y a une mesure, tu l'as citée tout à l'heure, on peut peut-être revenir un peu plus précisément là-dessus, parce qu'il y a une mesure emblématique du quinquennat Hollande, qui est le fameux CICE. Alors finalement, ce dispositif, le CICE, dont tu nous dire un petit peu de quoi il s'agit. Elle est assez emblématique finalement de ce qu'on voit en matière économique, c'est-à-dire une politique de l'offre au détriment d'une politique fondée sur justement la demande, c'est-à-dire fondée sur l'aide aux plus pauvres, l'aide aux smicards, pour essayer de relancer la politique économique. Là, l'idée, c'est finalement, eh bien, c'est toujours la grande idée néolibérale, si ça fonctionne pas, si on est en crise, c'est parce que le coût du travail est trop important, et eh bien, il faut baisser le coût du travail pour relancer la machine économique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que maintenant ça fait un petit moment que ça dure, qu'est-ce qu'on peut dire de cette mesure CICE et de ses effets à la fois économiques et sociaux?
Il y a plusieurs effets, c'est-à-dire le premier effet, c'est que il y a quelqu'un qui...
Peut-être nous rappeler avant ce que c'est exactement.
Le CICE, c'est un crédit d'impôt, c'est-à-dire que pour des raisons notamment budgétaires, Hollande a choisi de ne pas faire une exonération supplémentaire des cotisations sociales employeurs. Bon, même si la question est désormais posée de la transformation du CICE en exonération, c'est un crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés.
Bon. Ça veut dire que les entreprises...
L'entreprise, en fonction de sa masse salariale et de la proportion de salariés qui ont un salaire inférieur à 2,5 SMIC, a un crédit d'impôt par des mécanismes assez complexes. Puisque c'est un désavantage du point de vue budgétaire, il y a un décalage dans le temps. Mais comme il est possible par la BPI d'obtenir une avance, en réalité, les entreprises bénéficient du CICE extrêmement rapidement. Donc le CICE, il monte en charge progressivement. Il va atteindre, grosso modo, 20 à 21 milliards d'euros. Bon. Normalement, c'était un crédit pour la compétitivité, puisque c'est à la suite du rapport Gallois, un crédit pour la compétitivité. Or, ce qu'on observe, c'est qu'il est donné à toutes les entreprises. Et par exemple, la Poste, qui supprime des emplois à tour de bras, et où il y a une très forte dégradation des conditions de travail, bénéficie du CICE.
C'est la fameuse question des contreparties, finalement.
Alors, il n'y a pas de contrepartie. Et y compris si on... Alors, la seule... Enfin, il y a une contrepartie, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la question de la négociation de branche. Mais en ce qui en matière... c'est un crédit d'impôt, on aurait pu imaginer avec, que les... par exemple, le fisc puisse aller regarder si le crédit d'impôt est utilisé conformément à son objet. Or, en réalité, il y a des instructions du ministère des Finances. Il suffit d'aller d'ailleurs sur le site du ministère des Finances pour le voir, qui explique qu'il ne peut pas y avoir de contrôle de l'utilisation du CICE.
Absolument.
Donc, il peut y avoir, qu'est-ce qu'il y a? En fait, les contreparties du CICE, c'est que, normalement, l'entreprise doit présenter un rapport au comité d'entreprise, qui est généralement vide, et puis il doit y avoir des négociations de branche qui ont, en réalité, extrêmement peu avancé. Bon. Alors, le bilan du...
En termes d'emploi. Parce que c'est comme ça la question, finalement, au départ.
Le bilan du CICE en termes d'emploi, il y a eu en septembre 2016 un rapport du comité de suivi qui est impulsé par France Stratégie. Grosso modo, on parle d'un effet direct entre 50 000 et 100 000 emplois. Ce qui est extrêmement coûteux, parce que à cette époque-là, on avait dépensé plus de 10 milliards d'euros en CICE.
Donc si on divisait 10 milliards d'euros par 100 000 emplois, on verrait que ça nous coûte extrêmement cher. Ça nous coûte, puisque ça coûte à l'impôt, finalement. Ça coûte à l'ensemble des Français.
Oui, parce que c'est en réalité, c'est un transfert de la charge, de charge des entreprises vers les ménages.
Absolument.
Et que si on avait créé des emplois directs, mettons 1500 euros net et ce qui fait un emploi avec les charges, une cotisation sociale de 2200 euros, on aurait pu créer des centaines de milliers d'emplois.
Beaucoup plus d'emplois.
Voilà. Donc, c'est un cadeau. Et puis, par ailleurs, tous les autres critères, il n'y a pas eu de progression de l'investissement dans les entreprises ayant bénéficié du CICE. Il n'y a pas eu de progrès en matière de conditions de travail, etc., etc. Donc, et quant au commerce extérieur, il demeure aussi mauvais. Bon, il demeure aussi mauvais. Donc, le bilan du CICE, c'est...
Ce que tu veux dire, c'est que la mise en place de ce CICE n'a pas permis de faire baisser les coûts des produits et de gagner des marges sur le...
Ils ont gagné des marges. Ils ont gagné des marges, les dividendes continuent d'être abondants, etc.
J'entends des marges du point de vue du commerce extérieur.
Du commerce extérieur, non.
D'accord. Bien, écoutez, peut-être après cette discussion intéressante sur la politique économique, une nouvelle petite pause musicale. Alors on va continuer un peu avec Chuck Berry, puisqu'on va écouter Les Chaussettes Noires, Repose Beethoven, mais il faut savoir que c'est la musique et celle de Chuck Berry. Donc on continue avec Chuck Berry. Chaussettes noires, ça nous rajeunit pas, si j'ose dire, mais bon, c'est une... Alors, on discutait avec Norbert, là, en écoutant cette chanson, et on se disait que, finalement, une des raisons, peut-être, de cette politique économique telle qu'elle a été expliquée et analysée, tient peut-être aussi au profil des dirigeants qui ont mis en place cette politique. Et je sais que Willy, tu es toujours très intéressé par ces questions et que tu as répondu à cette question par un mot qui est celui du New Public Management. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer quel est le sens de ce mot et en quoi est-ce qu'il permet finalement de ce concept d'expliquer peut-être aussi la politique qui a été menée ces dernières années. Willy n'est peut-être pas, on t'entendait pas, Willy. Tu peux y aller.
Voilà, parce que la politique qui est développée ne tombe pas du ciel. Elle ne tombe pas du ciel des idées, elle ne s'applique pas comme ça. Elle est appliquée par des personnes qui la produisent. Et qui la produisent eu égard à leur histoire sociale, eu égard à ce qu'ils sont, eu égard à ce qu'ils font. Et ce qui est très important, je pense, dans l'ouvrage de la Fondation Copernic, un président ne devrait pas faire ça, c'est qu'il mêle des analyses sur les politiques structurelles, sur leurs effets, mais aussi sur les producteurs de ces politiques, et qu'il n'hésite pas à citer ces producteurs, et qu'il n'hésite pas, bien sûr, à en donner les parcours sociaux, qui sont extrêmement révélateurs, voilà, qui sont extrêmement révélateurs et qui sont à l'origine des politiques libérales qu'ils ont menées. En l'espèce, ils appartiennent tous à peu près, tous les principaux décideurs, je donnerai éventuellement quelques noms ensuite, pas pour le plaisir de donner des noms, mais parce que ils sont extrêmement typiques, quoi, de qui a fait quoi d'un point de vue notamment économique à l'Élysée. Ce sont des personnes qui viennent de Sciences Po et de l'ENA, certains de Polytechnique très peu, mais de Sciences Po et de l'ENA qui sont maintenant devenus des business schools, des écoles de commerce, et qui surtout conjuguent leur formation initiale à Sciences Po et à l'ENA avec des formations à l'ESSEC, c'est le cas d'ailleurs de François Hollande, ou à HEC, ou bien avec des passages dans les vraies business schools anglo-saxonnes, américaines ou en Grande-Bretagne. Et donc, qui sont formés à considérer comme incontournables, comme seule solution naturelle, les recettes du marché qu'ils ont dû, pour devenir d'ailleurs d'excellents juniors de la classe dominante, j'allais dire, qu'ils ont dû intégrer mieux que d'autres encore. De telle sorte qu'ils poursuivent la politique de leurs semblables dans les cabinets ministériels antérieurs, avec extrêmement de simplicité, puisque ils ont dans la tête exactement les mêmes recettes. Alors ça, c'est un premier point qui est extrêmement, je crois, important. Il n'y a dans ces cabinets ministériels ou à l'Élysée aucun syndicalisme. Aucun syndicalisme.
Mais bon, je dirais même plus. Je me rappelle d'un travail qui avait été réalisé il y a quelques années de ça sur la composition des cabinets. Et des conseillers, les conseillers dans les cabinets. Et ce qui était montré de manière tout à fait frappante, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de politique. C'est-à-dire qu'on n'a plus que des techniciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont été formés effectivement aux techniques économiques, aux techniques managériales, et à certaines formes de techniques économiques, bien évidemment. Mais que aujourd'hui au Parti socialiste, on ne retrouve plus d'anciens militants syndicalistes, par exemple, comme ça pouvait être le cas à un certain moment, et on ne retrouve plus que des technocrates. C'est un petit peu ce que tu sembles dire.
Oui, et notamment, on trouve plus de énarques troisième voie, par exemple, qui étaient des énarques qui pouvaient être passés par
le syndicalisme,
par exemple. Bon, je crois qu'il y a un second élément qu'il faut indiquer, c'est que c'est la circulation de ces élites que Bourdieu aurait nommé sans doute la noblesse libérale d'État, qui est la nouvelle noblesse libérale d'État, et qui est une noblesse, parce que ils n'ont absolument rien de commun avec quiconque écoute cette émission, mais rien. On parlait de chaussettes noires, même leurs chaussettes ne sont pas nos chaussettes. Voilà, ça n'a pas le même prix. Ce qu'ils mangent, c'est pas pareil. Ils vivent dans l'entre-soi des beaux quartiers. Ils n'ont jamais connu le chômage. Ils ne connaissent aucun ouvrier, aucun employé.
Ils n'ont souvent jamais travaillé.
Ils n'ont jamais travaillé autrement
que dans des banques.
Que dans les banques. Alors, par exemple, si on prend quelques exemples, j'ai cité, on le connaît tous, Macron, j'ai cité Laurence Beaune. Prenons par exemple le conseiller industrie à l'Élysée, qu'on connaît pas tellement, enfin c'est très très important, Julien Pouget, polytechnicien, qui était depuis 2011 vice-président d'Alstom Power avant de rejoindre l'Élysée. Sitôt qu'il quitte l'Élysée, il passe à la direction de Total en 2016. Il y a plein d'exemples de la sorte qui montrent quoi ? Que, en fait, pour maintenant obtenir un poste important dans l'État et contribuer à faire la politique de l'État, il faut préalablement venir d'un très haut poste dans les entreprises du CAC 40, passer par un haut poste dans l'État, puis revenir, mais à un niveau supérieur, à un poste de direction dans les entreprises du CAC 40. Voilà la circulation de la nouvelle noblesse libérale d'État. De telle sorte que, ils font toujours la même politique, qui est une politique de modernisation libérale, dont ils ne voient d'ailleurs jamais les effets concrets, et qui est pour eux, je le disais, un prêt-à-penser professionnel qu'ils appliquent partout. Partout. Voilà.
Mais ce qui est intéressant dans l'article que tu as écrit là dans cette publication, un président ne devrait pas faire ça, c'est que tu montres non seulement, comme tu viens de le dire, que cette symbiose entre le public et le privé dans les très hauts niveaux de la fonction publique, entre cabinet, ministre et grands dirigeants des entreprises du CAC 40, on le retrouve à chacun des niveaux de la fonction publique. Et ça, peut-être, ce serait intéressant que tu nous évoques cette question.
Oui, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, parce que c'est comme ça que les modernisations libérales s'appliquent. C'est-à-dire que ce qui se passe, j'allais dire, vers version XXL, pourrait on dire, à des étages supérieurs dans l'État, se passe à peu près de la même façon, mais version M ou L à des étages inférieurs, puis version small à des étages encore inférieurs. Mais dans les directions générales, souvent des administrations locales, arrivent du privé, soit des managers, et qui font souvent appel pour réformer d'ailleurs la fonction publique, qui ont souvent appel à des cabinets de consultants privés, qui évidemment ne donnent pas, dans la quasi-totalité des cas, de recettes de management autres que privées.
On a un petit peu de mal à t'entendre là, Willy, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de déco. Vas-y.
Donc je disais que dans les étages inférieurs de la fonction publique, on avait le même mécanisme, et les recrutés qui venaient du privé, et qui était aidé par des boîtes de consultants privés chargées d'appliquer des recettes managériales du privé.
D'accord. On a un petit problème. Peut-être, un problème de micro, mais on a un petit problème. C'est plutôt la ligne téléphonique qui pose problème, semble-t'il. Bien. Effectivement, parce que moi j'ai en tête la question, par exemple, de la RGPP là où aujourd'hui appelé autrement, mais où on a exactement ce schéma où pour réformer entre guillemets la fonction publique, eh bien on fait appel à des cabinets privés de très haut niveau qui prennent évidemment des sommes absolument astronomiques pour nous expliquer que il faut dégraisser le mammouth, il faut baisser les effectifs, il faut augmenter les temps de travail, il faut augmenter la productivité. C'est ça que tu montres dans ton article.
Ah, c'est très précisément ça, hein. À tout niveau, et c'est pourquoi l'affaire s'emboîte si bien, pour le plus grand malheur des gens et pour le plus grand malheur des UG, parce que ce qui se passe avec les compétitions des moyens, avec la diminution du nombre de postes dans la fonction publique, c'est de plus en plus de violence au guichet également, au guichet des services sociaux, des services d'accueil de la fonction publique. Dans les services des impôts ou les permanences
logement. Willy, je crois que là on a un petit problème de ligne, donc on va être obligé d'arrêter avec toi, puisque là malheureusement on a vraiment beaucoup de mal à t'entendre. Je te remercie. De toute façon, là l'émission est très très plus que largement avancée. Donc merci Willy, et puis on va terminer l'émission avec Norbert, si tu veux bien. Et merci d'être intervenu. Norbert, en quelques mots, parce que là maintenant il nous reste très très peu de temps, tu avais abordé déjà cette question lors de, au tout début de ton intervention. Bon, c'est évidemment pas en 3 minutes qu'on va pouvoir régler la question, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Parce que en restant aux politiques économiques, bon, on a vu quelles étaient les difficultés qu'ont rencontrées aujourd'hui les salariés pour dans le cadre des politiques qui ont été menées. Qu'est-ce qu'il aurait été possible de faire sans être forcément, je veux dire, sans renverser la table? En restant dans une politique, disons tout simplement, d'ordre keynésienne, disons tout simplement.
Bah, le problème, c'est que il y a une crise depuis 2007-2008. Il y a une crise des économies capitalistes au niveau international, et cette crise perdure. Et il y a par ailleurs le cadre de l'Union européenne. Le problème, donc, dans ce cadre-là, c'est que les bases pour une politique de réformiste, une politique de réforme, sont de plus en plus étroites. C'est-à-dire qu'à la limite, pour faire des réformes, il faut protester et hurler beaucoup plus, être beaucoup plus énergique pour n'importe quel gouvernement qu'il ne fallait l'être il y a 20 ou 30 ans.
Dit autrement, il est beaucoup plus aujourd'hui difficile de mettre en place des politiques keynésiennes, tout simplement. Absolument. Parce que les freins aujourd'hui sont...
Il y a des freins, il y a le fait que les économies sont ouvertes, le fait que les marchés des capitaux sont complètement dérégulés, le fait qu'il y a le cadre de l'Union européenne. Donc, pour faire autre chose, il faut d'abord en avoir la volonté politique. Bon. Il faut d'abord en avoir la volonté politique.
Et cette volonté politique, le curseur est un peu plus haut qu'il n'était.
Le curseur est un peu plus haut. Le fait que tout devient matière à conflit. Par exemple, on peut très bien, en matière d'équilibre budgétaire, d'équilibre de régime de retraite, il y a deux méthodes. Soit on augmente les recettes, soit on comprime les dépenses. Bon, la mode aujourd'hui et la pression générale du système, des agences de notation, etc., etc., c'est de dire il faut réduire les dépenses et pas augmenter les recettes. Bon, là, on a eu un simili conflit au moment de la réforme des retraites avec la Commission européenne parce que il avait dit qu'il envisageait d'augmenter les cotisations employeurs. Bon, pour rééquilibrer. La Commission européenne lui a bien fait comprendre que niet, il fallait baisser les dépenses. Et surtout, donc il faut beaucoup plus d'énergie pour faire des réformes. Il faut sans doute pas raisonner au niveau d'un pays. Il faut essayer de mobiliser aussi les autres peuples européens, les forces de gauche au niveau européen, pour surmonter ces obstacles.
Bien, il aurait fallu beaucoup plus de temps, je crois, que pour pouvoir faire le tour de la question, mais j'ai l'impression quand même qu'on a pu avancer néanmoins. Et on remercie donc Willy Pelletier, donc coordinateur de la Fondation Copernic et coordinateur de la Note, dont je rappelle, un président ne devrait pas faire ça. Vous la trouvez dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Et je remercie Norbert Holblatt de cette intervention. Et je vous donne rendez-vous donc dans un mois maintenant pour une nouvelle émission de la Fondation Copernic. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de la réécouter sur le site de la Fondation Copernic ou sur le site de Mode d'emploi. Merci et donc à dans un mois maintenant.
Séjour enchanté et sous les...